Le psaume 140. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce psaume appartient à une catégorie de psaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires. Nous allons prendre deux dimanches pour essayer de comprendre ce psaume parce que ça nous plonge dans un problème très épineux. Certains disent que c'est le plus grand problème de la Bible. Le problème qui pousse certains à questionner même l'inspiration divine des Écritures. Et vous allez voir pourquoi dans la suite. Est-ce que je peux prier ma colère? Je vis toujours avec Dieu. Je vis devant lui, je vis avec lui, et je dois vivre avec crainte devant lui. Est-ce que je peux prier ma colère? Peut-être. Mais c'est une question importante pour nous, n'est-ce pas? Nous nous rappelons que Moïse a dû mourir de manière précoce et ne pas entrer dans le pays de Canaan à cause de la colère mal gérée. Donc la colère peut être très, très répréhensible aux yeux de Dieu. Mais pas toujours. Êtes-vous en colère? Pourquoi? Ça dépend. Alors, nous allons aborder ce sujet par quelques questions. Je crois que j'en ai quatre dans la dernière et le cœur du message. Mais on va commencer avec une très facile. Qu'est-ce qu'un psaume imprécatoire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, un psaume imprécatoire, c'est simplement un psaume qui appelle à Dieu pour ruiner quelqu'un, ou pour juger quelqu'un, ou pour plonger quelqu'un dans l'affliction, ou pour conduire quelqu'un à mourir. Un psaume imprécatoire, c'est un psaume dans lequel on prie Dieu de maudire. D'accord? Donc, voilà la première question. Est-ce que on peut prier ainsi? Ça m'amène à la deuxième question. Est-ce que vous pourriez vous voir en train de prier comme ceci? Vous. Que leur table soit pour eux un piège, Seigneur, et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Imaginez que vous priez pour quelqu'un dans cette ville, dans ce sens. Et fait continuellement chanceler leur rein. Réponds sur eux ta colère. Et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, leur maison. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Ou bien, est-ce que vous pouvez vous voir en train de prier comme ceci? Il aimait la malédiction? Vous priez au sujet de quelqu'un, qu'elle tombe sur lui, Seigneur. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis, et de ceux qui parlent méchamment de moi. Ou bien, est-ce que vous pouvez vous imaginer en train de prier comme ceci? C'est une prière de du peuple de Dieu au sujet de Babylone qui a pratiquement anéanti la nation d'Israël, qui a tué et une bonne partie massacré, une génocide. Et voilà la prière, une petite partie. Fille de Babylone, la dévastée. Heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Ou bien, est-ce que tu peux te voir prier comme ceci? Éternel, N'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets. Nous l'avons lu tout à l'heure, c'est notre texte. De peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, Seigneur. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes où ils ne se relèvent pas, Seigneur. Je sais comment le cœur chrétien répond intuitivement à des prières comme ça. Vous êtes en train de dire, mais comment est-ce que ça peut aller ensemble avec l'Évangile, avec le message de la grâce, avec le message de Christ et de ses apôtres, répondez au mal par le bien. Ne donnez pas le mal pour le mal. Et le cœur chrétien a ces questionnements profonds en entendant de telles choses, n'est-ce pas? Pourtant, ces prières sont dans les Écritures saintes, c'est-à-dire que Dieu les a inspirées. Donc, il faut que nous regardions et que nous essayions de comprendre cela. J'arrive à la troisième question. C'est pas vraiment une question, c'est une affirmation. Nous devons rejeter certains efforts pour écarter ces passages de notre considération et de l'intégration dans notre manière de prier et adorer Dieu. Je veux soutenir, je voudrais vous dire que vous ne priez pas comme un croyant si vous ne priez pas des imprécations. D'accord? Votre prière n'est pas complètement croyant si ces prières imprécatoires ne vous inspirent pas une prière au moins similaire. Même si on va voir qu'il y a la venue de Jésus apporte une différence. Mais il y a continuité et discontinuité. Ok. Certains gens disent par exemple que ces prières appartiennent à une moralité primitive de l'Ancien Testament qui est inférieure à la moralité du Nouveau Testament. Alors, le problème avec cela, c'est que les prières imprécatoires existent dans le Nouveau Testament. Et même dans la bouche des hommes au ciel qui sont glorifiés et qui n'ont pas de péché. On va donner quelques exemples. Sur votre feuille, si vous avez les feuilles, vous pouvez regarder le verso de la feuille avec le plan du message. Et sur le verso, vous allez voir Actes chapitre 5 et verset 9. On va lire ce verset et quelques autres versets après. Vous allez voir que le Nouveau Testament parle dans le même sens, plus ou moins, que l'Ancien. Actes chapitre 5. Alors Pierre lui dit, donc à Saphira, la femme d'Ananias, donc les deux ont essayé de mentir à l'Église. « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enlevé ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » Et elle tombe, elle meurt tout de suite. Pierre ayant prononcé dans un sens une sorte d'imprécation sur elle qui s'est réalisée tout de suite. Et donc voilà. L'Évangile, quel que soit son sujet, est au sujet de la vérité. Et apporter le mensonge dans l'Église de Dieu, c'est apporter la ruine de l'Évangile, parce que l'Évangile parle de la vérité. C'est pour cela que cela arrive. Actes chapitre 8, Pierre, cette fois, parle à un homme qui s'appelle Simon, qui a fait semblant d'être chrétien, qui a été même baptisé, mais son vrai désir, c'était pas le Christ, mais le cash. Il voulait de l'argent. Et il voulait avoir le pouvoir des apôtres pour faire certains miracles afin d'avoir de l'argent. Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. » Imprécation. Vous avez entendu ?« Que ton argent périsse avec toi. » C'est-à-dire que tu périsses Et comme Pierre ne peut pas effectuer, il ne va pas effectuer ça, il est en train d'évoquer un souhait envers Dieu, de prier Dieu. Que ton argent périsse avec toi. Imprécation. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi dans ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Alors nous voyons un autre que l'imprécation peut aller de pair avec le désir que la personne soit sauvée. Ok? Les deux vont ensemble ici. Mais si tu ne te repens pas, que ton argent périsse avec toi. Troisième passage, Actes chapitre 13, Paul a un certain Élimas, un sorcier, qui s'oppose à l'évangile. Paul lit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Donc une sorte de malédiction, une affliction que donc l'apôtre appelle et fait tomber sur Élimas. Galates 1, 8. Paul dit ceci au sujet de ceux qui veulent détourner l'évangile et déformer l'évangile pour qu'il n'en soit plus un évangile. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, le mot veut dire maudit, maudit de Dieu qui périsse. Alors encore, Paul ne peut pas effectuer ça, il est en train de faire appel à Dieu, de parler d'un souhait, une prière. Que ces gens soient anathèmes. Et, dernier passage dans l'Apocalypse, nous sommes au ciel, nous sommes parmi les gens qui n'ont pas de colère irréfléchie ou de mauvaises pensées. Nous sommes là où tout ce qu'on fait est agréable à Dieu. Complètement agréable à Dieu, mais complètement. Et voilà ce qui se passe. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et vous savez qu'il y a des milliers de chrétiens tués, torturés chaque année dans ce monde. Des milliers. En 2013. Je vais vous en raconter tout à l'heure. Et voilà certains de ces gens. Et ils prient. Ils crièrent d'une voix forte. Et en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ils prient Dieu et ils sont en train de dire, jugez-les seigneurs, fais-les. Périr. Voilà, ça c'est la prière d'une personne parfaite qui plaît à Dieu en priant de la manière. Il prie pour le jugement des méchants. Bien, donc nous ne pouvons pas dire que les prières des psaumes que nous avons lues sont des prières qui représentent une moralité différente et inférieure. Parce que nous voyons que le Nouveau Testament appel au jugement de Dieu avec une passion et un désir ardent. Et cela plaît à Dieu. Un seul Dieu, une seule moralité. Si vous regardez sur votre feuille, il faut bien savoir que dans l'Ancien Testament, on a les mêmes commandements que le Nouveau vis-à-vis de nos ennemis. Regardez bien Lévitique chapitre 19, au milieu de la feuille, donc le verso, de votre première feuille, c'est l'Ancien Testament. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dieu est contre la haine, une sorte de haine mauvaise. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. La vengeance personnelle est interdite dans l'Ancien Testament. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et si on lit le verset suivant dans le psaume 5, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Dieu n'aime pas la violence. Et il ne veut pas la violence injuste parmi son peuple. Proverbe 20, 22, ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne permet pas à son peuple ni la rancune, ni la vengeance, ni la violence. Et ça, c'est aussi la moralité du Nouveau Testament. Bien, une deuxième objection ou une deuxième tentative d'écarter ces psaumes imprécatoires, c'est de dire que ces psaumes imprécatoires sont simplement une expression irréfléchie de colère et de vengeance personnelle, des prières, des expressions honnêtes, parce que c'est comme ça qu'on s'est senti, mais injustes et impropres à notre imitation. Vous savez tous, on dit des choses qu'on voudrait bien reprendre quand on est en colère. Et il y a des gens qui disent que ben ces prières, c'est des prières honnêtes, mais c'est plutôt des choses qu'il faudrait reprendre. Le problème avec cette idée, c'est que la plupart de ces imprécations sont écrites par qui ? Dans les psaumes. David. David, qui est l'homme dans l'Ancien Testament le moins enclin à la vengeance. Il est absolument exemplaire dans sa capacité de ne pas se venger quand Saül le traque pendant des années, quand un homme lui jette des pierres et le maudit, lui le roi, et ses amis veulent le tuer sur le coup, et il dit « Non, laisse-le, peut-être c'est le Seigneur qui lui dit de me maudire. » C'est un homme absolument exemplaire. Deuxièmement, les psaumes, il faut les comprendre, ne sont pas des explosions subites. C'est des prières écrites en poésie avec beaucoup de réflexion. N'est-ce pas? Quand vous les lisez, vous vous rendez compte que il y a un style, il y a une poésie, et donc ça a été médité mûrement. Troisièmement, les psaumes, et ces psaumes imprécatoires, sont des expressions de culte public. On les a écrits pour que tout le monde les chante. Dieu a voulu, et ces psaumes sont inspirés, que ces paroles soient dans notre bouche. Voilà. C'est calculé pour qu'on les chante. Et même si vous pouviez prouver que c'était des expressions un peu irréfléchies, qu'on devait reprendre, ça n'explique pas la réalité de la même chose dans le Nouveau Testament. Donc, on ne peut pas accepter cette tentative de les écarter. Maintenant, nous abordons le quatrième point et le cœur du message. Je vais m'arrêter dans 12 minutes et on va reprendre le reste, 12 à 17 minutes entre dès que je vois le 30 minutes arrive. Mais on va juste aborder le cœur du message maintenant pour voir pourquoi ces psaumes sont à la fois très sages, très nécessaires et très justes. OK? Donc, pour comprendre l'importance et la place des prières imprécatoires, il faut que vous et moi, qu'on saisisse les points suivants. Et donc, aujourd'hui, je crois dans 2 semaines, parce que le jour de Pâques, on va quand même avoir un message sur la résurrection, mais dans 2 semaines, on va revenir sur ce sujet pour le finir. On va essayer de saisir les points suivants, et je commence quelques-uns. Premier point, dans les psaumes imprécatoires, qu'est-ce que les croyants demandent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander? Alors, dans l'Ancien Testament, dans les prières imprécatoires, le plus souvent, on est en train de demander des jugements immédiats et terrestres qui préfigurent et qui débute le jugement éternel et spirituel. Mais David demande bien que ses ennemis donc périssent déjà physiquement sur la terre ou qu'ils soient affligés physiquement sur la terre. Il veut déjà un jugement qui commence ici et maintenant et concrètement et physiquement dans la sur la terre. OK? Et il faut bien comprendre cela. L'Ancien Testament, nous avons une sorte de symbole du royaume de Dieu final. Je m'explique. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui établit son peuple dans son territoire, la place de Dieu, où Dieu habite, sur le règne de Dieu. Le peuple de Dieu, dans le territoire de Dieu, sous le règne de Dieu. D'accord? Adam et Ève sont le peuple de Dieu au début, dans le territoire de Dieu qui s'appelle le Jardin d'Éden, sous le règne de Dieu. Ils pêchent, ils sont jetés dehors. Dans son plan de rédemption, Dieu va d'abord faire un royaume un peu, une maquette, qui n'est pas le vrai royaume de Dieu, mais qui nous donne une image, une mise en scène. Et pendant le temps de la loi mosaïque, on a le peuple de Dieu, qui est Israël, dans le territoire de Dieu, qui est Canaan, sur le règne de Dieu. Mais attention, sur le règne de Dieu, ça veut dire que dans cette période, on a des lois qui préfigurent le jugement dernier, comme s'il était déjà venu. C'est pour ça que pour pas mal de crimes, il y a la peine capitale qu'on n'a plus dans le Nouveau Testament. Parce qu'à l'époque, on est en train de mettre en scène ce qui arrive dans le royaume final lorsque Jésus vient. Pour qu'on puisse voir quelle sorte de jugement on peut voir palpablement dans le pays de Canaan, quelle sorte de jugement appartient au royaume final de Dieu. D'accord? Vous avez compris? Donc, quand David va demander concrètement, maintenant, physiquement, des jugements qui tapent sur des âmes, des ennemis de Dieu, maintenant, dans l'histoire, il est en train de prier comme quelqu'un qui est dans ce cadre, dans le pays de Canaan, pendant une certaine période restreinte. Dieu va faire une mise en scène pour que le monde sache pour toujours comment ça va être un jour. Heureusement, Dieu l'a fait, parce que les hommes ne croiraient jamais que son jugement est si terrible si Dieu ne l'avait pas mis en scène concrètement. David prie comme un Jésus à venir. Il est loin de l'Éternel, David, n'est-ce pas? Il est la préfiguration de Jésus-Christ. Et Jésus vient pour juger ceux qui ont affligé son Église. Oui, il vient pour faire tout ce que David a demandé que Dieu fasse à ses ennemis. Exactement la même chose. Mais nous avons donc cette mise en scène qui doit se passer historiquement, palpablement, visiblement, physiquement, dans le pays pour qu'on le voit. OK? Dans le Nouveau Testament, et là je vais juste aborder le changement, il y a des imprécations. Mais si vous cherchez dans tout le Nouveau Testament, il y a quand même la venue du Christ, la croix, le fait que l'Église n'est plus une nation, le fait que nous n'avons plus une mise en scène des derniers jours, hein? Ça change quand même certaines choses. Et qu'est-ce que ça change? Si vous cherchez toutes les imprécations dans le Nouveau Testament, vous allez trouver cette différence, que dans le Nouveau Testament, face à nos ennemis, ceux qui décapitent les chrétiens, ceux qui les tuent, ceux qui ravagent l'Église, on prie pour ces choses suivantes. On prie parfois pour le jugement définitif, un jour, des méchants. On prie comme Paul, qu'ils soient anathème, mais ça c'est leur jugement éternel. On prie parfois donc pour la victoire de l'Évangile sur ces gens par des moyens spirituels. Vous vous rappelez, lorsque les apôtres sont relâchés de prison, en Actes chapitre 4, et là, les responsables commencent déjà à tuer les chrétiens, qu'est-ce qu'ils prient? Ils ne prient pas que Dieu, historiquement, physiquement, tue tout de suite forcément ses persécuteurs. Ils disent, Seigneur, regarde leurs menaces. Le psaume 2 est en train de se réaliser devant nos yeux. Les nations se lèvent contre toi et ton roi. Alors, Seigneur, nous demandons que tu nous donnes la puissance et que tu fasses des miracles pour que nous puissions annoncer l'évangile avec force. Et Dieu les envoie l'Esprit Saint. Parfois, on prie, toujours on prie pour la délivrance physique de la violence des hommes méchants et persécuteurs. Mais aussi, on prie parfois que Dieu enlève physiquement le persécuteur, que Dieu finisse sa vie, ou qu'il enlève par une maladie, qu'il l'enlève de la scène. Mais on ne prie pas forcément que tout ce que la justice signifie doit lui arriver palpablement. D'accord? On peut prier que Dieu l'enlève, qu'il le juge, qu'il l'enlève de la terre, mais on n'a pas besoin de voir en détail donc tout ce qu'il a fait aux autres, et il doit le recevoir. Et nous allons voir pourquoi on prie un peu comme ça dans le psaume, mais pas forcément aujourd'hui. Ok, bon, si tout ça c'est pas clair, c'est pas grave, je me presse vite d'aller, et on va ralentir un peu tout à l'heure, ok? Bien, maintenant, le deuxième point que vous devez saisir, le premier point, je répète parce que vous allez oublier ce qu'on vient de dire, j'ai dit, qu'est-ce que les croyants sont en train de demander? Et on a répondu que dans l'Ancien Testament, ils demandent un jugement palpable et physique tout de suite. Et dans le Nouveau Testament, on peut demander leur perdition éternelle et on peut leur demander qu'ils soient jugés physiquement de manière à les enlever. Mais pas forcément que tout ce que le jugement signifie soit mis en scène pour nous. Deuxième point. Sur qui est-ce que les prières de l'Ancien Testament invoquent l'infliction, le jugement ou la destruction? Je parle de l'Ancien Testament maintenant. Vous devez comprendre certaines choses. D'abord, les croyants prient d'abord les imprécations sur eux-mêmes. Est-ce que ça vous étonne? Avant de prier que Dieu juge palpablement les autres, les croyants de l'Ancien Testament prient que les imprécations tombent sur eux, les mêmes imprécations, si jamais eux, ils sont violents, infidèles, injustes. Je vous donne juste un exemple qui est sur votre feuille. C'est donc dans le psaume 7, les versets 4, 5 et 9. Nous lisons dans ce passage, je crois que sur votre feuille, il est indiqué le psaume 7, les versets 4 à 6. Ça doit être ça, je pense. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Ah! Faut le savoir, que les imprécations appartiennent à tout le monde. Si on veut la justice de Dieu, on veut la justice de Dieu pour soi-même d'abord. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que, écoutez bien, parce que c'est extrêmement important, les croyants ne demandent jamais des afflictions ou des jugements terrestres sur des gens qui sont simplement mauvais comme tout le monde, ou incrédule, ou résistant à l'annonce de la vérité, d'accord? Le non-croyant typique. Les imprécations sont toujours évoquées, nous, si nous sommes dans l'Ancien Testament, on demande de la souffrance envers seulement ceux qui opposent à Dieu et à son royaume de manière violente et implacable, et qui refuse de se repentir. Je vous donne quelques exemples. Dans le psaume 94 que vous avez sur votre feuille, Nous voyons ceci. Dieu des vengeances éternelles, lève-toi, juge de la terre, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient éternel. Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger. C'est contre des gens comme ça qu'on prie des imprécations. Okay? Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas. C'est vers des gens comme ça, et ça seulement, qu'on trouve des imprécations dans la Bible. Si vous regardez le passage suivant, nous voyons que les apôtres n'ont pas compris ça parfois. Dans Luc chapitre 9, Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas, parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende du ciel et les consume ?» Alors dans ce cas, cette imprécation vient contre qui ? Contre des hommes violents ? Non. Juste contre des gens qui n'ont pas voulu entendre l'Évangile. Et Jésus dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Le Seigneur n'accepte pas une imprécation contre une personne dans cet état pécheur. L'imprécation viendra sur lui au jugement dernier. Mais on n'a pas le droit de prier ainsi vis-à-vis d'un homme qui est simplement pécheur de la manière typique. Troisièmement, nous sommes toujours en train de demander, et je vais juste finir ce point, nous sommes à 32 minutes. Les croyants, nous sommes tous sur la question contre qui est-ce qu'on prie évoque ces imprécations. Les croyants ne prient jamais ces imprécations sur des gens qui sont hostiles à eux personnellement, mais toujours envers ceux qui sont hostiles à Dieu et son royaume. Si vous regardez dans le psaume 139 sur votre feuille, vous voyez ça bien. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang? On voit, c'est des gens qui tuent encore, c'est une méchanceté extrême. Éloignez-vous de moi, il parle de toi d'une manière criminelle. Il parle de toi, Dieu, il parle de toi de manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Donc, il n'y a pas de question de vengeance personnelle, de colère parce qu'on m'a fait ceci. La colère, c'est parce que les hommes se rebellent d'une manière implacable, extrême et violente contre le Dieu vivant. Voilà. C'est pour ça qu'on prie des prières imprécatoires. La dernière chose qu'on peut dire sur ce point, sur qui est-ce qu'on évoque de telles choses, c'est que les croyants prient toujours ces imprécations sur des gens qui font preuve d'un endurcissement, je dirais, invincible entre Dieu et envers toute tentative de les gagner par l'amour. Je reprends le psaume 7 et je vous lis les versets 10 à 14. Écoutez bien, les détails dans ces psaumes sont inspirés et nous devons faire très attention à ça pour comprendre le contexte et la manière, la sphère des psaumes imprécatoires. Mets un terme à la malice des méchants et affermis la justice, le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps, donc contre le mal. Si le méchant, écoutez bien, si le méchant ne se convertit pas, il, Dieu, aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtrières, il rend ses flèches brûlantes. Nous voyons donc dans ce psaume qu'il est sous-entendu que la condition de la malédiction qui doit tomber, c'est que la personne ne se repente pas. Si la personne ne se repent pas, se repent, l'imprécation doit tomber à l'eau. Il y a même un verset dans les Proverbes qui dit cela explicitement. Je vous lis juste un passage de plus, le psaume 83, les versets 16 à 18. Poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom éternel. Vous voyez qu'il y a aussi le désir que s'il est possible qu'ils se repentent et qu'ils te cherchent. Ce désir est toujours sous-jacent à l'imprécation. Ok? Bien, je crois que nous allons arrêter là. Nous n'avons pas vu les choses les plus fortes et les plus importantes dans cette histoire. Nous allons y arriver. Mais au moins, peut-être aujourd'hui, nous devons être choqués, j'espère. Nous devons être un peu perturbés parce que la parole vient changer nos manières perverties de voir parce que nous n'aimons pas la justice. Nous préférons souvent que le méchant puisse continuer à faire cela. Parce que, écoutez, la seule alternative à ceux qui rentrent dans les églises au Nigeria avec des bombes et qui tuent comme cette année des dizaines de personnes, la seule alternative, s'ils ne sont pas stoppés, mis en prison, affligés par une sentence ou même meurent d'une maladie ou quelque chose, la seule alternative, c'est quoi? On les laisse continuer. On les laisse continuer. Et vous voyez que le problème, et je vais revenir dans 2 semaines, le problème est souvent que pour nous, le mal n'est pas aussi grave que pour les gens qui prient dans les psaumes. Pour eux, le mal est vraiment, vraiment grave et il faut l'arrêter. Il faut que Dieu l'arrête. Il faut la justice. Et nous allons voir que nous devons être souverainement repris par ces psaumes et nous devons nous questionner sur quel côté nous nous rangeons. Du côté de Dieu et son peuple qui veulent que ce mal arrête ou du côté des gens qui disent non, non, ne les arrêtez pas. S'il faut utiliser des mesures si drastiques, non, laissez-les continuer. Que le Seigneur donc nous anime d'un désir passionné de sa justice pour sa gloire et pour son royaume. Et nous allons apprendre dans 2 semaines des choses beaucoup plus importantes à ce sujet. Et puis nous allons voir comment nous pouvons prier avec certains changements de telles prières. D'accord? Ok, bien. Nous avons fini et nous allons, notre méditation, nous allons chanter un chant qui évoque Dieu comme celui qui à la fois est très bon envers tous ceux qui se repentent, mais il est un juge terrible, franchement, envers les méchants qui s'entêtent. C'est la feuille sur votre feuille, gloire, gloire à l'Éternel. Oui, vous l'avez pas sur la feuille? Ah,
non,
okay.
C'est moi qui l'ai imprimé, j'ai oublié.
Normalement, c'est sur toutes les feuilles qui sont dans les plastiques, là. Vous les avez. Oui. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée au qu'il est grand, quand il crée au qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il commande le néant, tressaille au premier accent,
tressaille au premier accent de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, ça n'ajoute dans les cieux, la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur. Devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris son effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais la maquille, le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, coûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône.
Je vous invite à prier si vous avez envie.
C'est vrai que lorsque nous regardons autour de nous chaque jour toutes les abominations qui se commettent, et notamment contre ton peuple, et notamment avec cet exemple du Nigeria, mais en bien d'autres endroits de la terre aussi, où la méchanceté et la perversité s'abat sur ceux qui cherchent à marcher dans tes voies. Seigneur, nous sommes scandalisés et nous détestons et nous haïssons ce mal qui se commet et toutes ces abominations. Et souvent, nous reconnaissons que nous ne savons pas comment gérer cette révolte qui est en nous contre ce mal. Nous voyons et nous ne savons pas comment prier. Mais Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses mettre un frein à toutes ces abominations, que tu puisses, Seigneur, porter ceux qui les commettent à la repentance. Et nous te prions, Seigneur, que tu mettes un terme à leur vie, s'ils refusent de se repentir, et que tu empêches ainsi le mal de se commettre. Et je crois que c'est le sens de ces psaumes d'imprécation. Mais Seigneur, nous ne savons pas jusqu'à quel point nous devons prier pour tous ces gens que nous considérons comme des diables, des démons, et dont nous pensons souvent qu'ils sont incapables et qu'ils ne seront jamais porté à la repentance, comme certainement l'ont pensé de Paul à l'époque où il ravageait l'Église. Seigneur, aide-nous à avoir du discernement pour savoir jusqu'à quel point nous devons Et dans quel sens nous devons prier? Nous reconnaissons que c'est difficile de, sans ton esprit, de savoir discerner jusqu'à quel point nous devons prier des gens comme nous avons eu des exemples dans le passé. Peut-être que des chrétiens ont prié pour Hitler ou pour Pol Pot ou pour d'autres, pour Staline, je ne sais pas, mais il semble que ces gens soient partis et quittés ce monde, soient morts sans se repentir. Et Seigneur, nous te demandons humblement que tu nous aides à prier ces prières d'imprécation, de savoir quand les prier et quand ne pas les prier. Mais nous savons aussi, Seigneur, comme nous l'avons vu ce matin, que le mal est aussi en nous et que nous avons aussi à nous inquiéter de toute la perversité qui demeure en nous. Et nous te prions, Seigneur, de mettre un terme à cette perversité. Nous te remercions de nous avoir accordé un jour la repentance. Et nous reconnaissons maintenant que c'est bien malgré nous que nous avons des pensées qui nous portent au mal et que nous les détestons. Et nous te remercions de cette grâce que tu nous as faite. Quoi qu'il en soit, Seigneur, nous te prions une chose, c'est que ton règne vienne et que ta volonté se fasse en commençant par nos propres cœurs et dans le cœur de tous ceux qui nous entourent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Tu es un juge terrible contre le mal. Et nous adorons cette sainte colère que tu as contre la méchanceté. Nous te louons, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous aussi, nous avons besoin de prier. Et nous voulons te dire que si jamais nous nous détournons de toi, que ta main se tourne contre nous et que nous périssions parce que c'est ce que nous mériterions. Car tu es un grand Dieu digne d'obéissance et de louange. Nous sommes affligés, ô Dieu, par les hommes de ce monde qui se révoltent de manière violente et agressive de plus en plus contre toi, que ce soit dans le nouveau athéisme en Angleterre ou que ce soit dans les fausses religions dans d'autres parties du monde. Béni sois-tu, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui laisse aller le mal, même dans ce monde, jusqu'à jamais. Tu as dit que donc, quand nous aurons souffert un peu, tu nous raffermiras. Tu as dit à l'église de Rome que le Seigneur écrasera Satan bientôt sur vos pieds. Et nous voyons que tu es un Dieu qui intervienne, tu es un Dieu puissant, qui arrête le mal, qui épargne son Église. Et pendant les temps de souffrance qui sont aussi nécessaires, Seigneur, car nous suivons notre Sauveur, nous prions que tu nous soutiennes, que tu soutiennes l'Église persécutée. Mais nous prions aussi que tu arrêtes, Seigneur, le mal qui ravage ton Église dans bien des parties du monde. Nous pensons surtout au monde musulman. Et nous prions, Seigneur, que comme le régime communiste est tombé, comme le régime soviétique est tombé, avec fracas, que tu fasses tomber aussi ce système d'islam, avec fracas, pour que ton évangile éclaircisse de millions d'hommes dans les pays tenus par l'islam. Nous nous remettons à toi, Seigneur, et nous te remercions pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste une petite annonce. Le flyer pour le parcours découverte du christianisme, Pierre l'a modifié, mais il n'en a pas amené ce matin, donc il va vous envoyer le mail avec ce flyer, c'est ça, Pierre? Et si vous avez une imprimante couleur, vous pouvez imprimer ça et commencer déjà à inviter les gens. La première date est dessus. Et tu as ajouté une phrase en disant qu'ils doivent te contacter.
En fait, je n'ai pas publisher.
Oui.
Je peux imprimer ce que tu m'as envoyé.
Oui.
Mais toi, tu as corrigé les fautes qu'on avait signalées.
Oui. Il faut juste ajouter une phrase.
Je ne peux rien ajouter dessus.
Ok. Si tu m'envoies la phrase qu'il faut ajouter pour prendre contact avec vous, si la personne est intéressée, parce qu'il faut que vous sachiez combien de gens vont venir. Hein. Donc, on ne peut pas le faire sans un retour. Tu vois? Quand on fait un parcours comme ça, il faut qu'on ait une idée. Donc, il faut qu'on décide une formule sur le flyer pour signaler. Donc, si vous voulez venir la première fois pour la, ok. Et donc là, vous pouvez commencer à inviter des gens déjà. Hein?
Et est-ce que vous l'aurez pour mercredi?
Comment?
Est-ce que vous l'aurez pour mercredi sous forme de papier?
Oui, aussi à la réunion de prière, on apportait.
Parce que moi, j'ai pas d'imprimante.
Oui, pas de problème. J'en apporte pour mercredi. Ok? Dimanche prochain, j'en aurai ici.
Si par exemple 30 personnes.
Si 30. On va dire alléluia, on va louer une salle. Oui, on louera une salle, sans doute. Oui. C'est pour ça que vous devez savoir. Oui, oui.
Si tu prenais 2 jours à l'avance, tu ne comprends pas.
Comment?
Si tu prenais 2 jours à l'avance.
Écoute, on arrivera. Mais dans mon expérience, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça va pas être 30 personnes. Si c'est 30 personnes, je vous assure qu'on a un peu d'argent mis de côté, on louera une salle. Et on dira à nos amis qu'un réveil s'est éclaté en France. D'accord?
À partir de 10, ça irait. 10 personnes. Plus nous.
Oui, on verra au fur et à mesure des réponses des gens, on gérera ça, ok? D'accord? S'il fallait le faire ici, on le ferait ici, mais en arrangeant bien les choses, en apportant le dessert, la tisane ici, mais je préfère ne pas le faire ici parce que c'est pas très commode, voilà. Ok? D'accord. Bien, alors bon dimanche. Je vais juste prendre les chants, s'il vous plaît. Ça, c'est à vous, oui. Merci.
Pour la catastrophe, je pense qu'avec 2 notes qui changent ça.
Oui.
Oui, je sais, parce que j'avais un doute. Ok, c'est bien. Tu n'as pas pris la pluie en venant.
Souvent, en regardant des émissions.
Oui. Merci, très bien.
On voit les gens pêcher comme ça, sans être appréhendés et tout. Je suis en colère. Et Pierre m'a dit, calme-toi, regarde plus ça. Alors, je ne regarde plus. Mais je garde la colère. Mais c'est parce que j'ai toujours eu une âme de justicière. Mais bon, pas justicière, quoi. Mais j'ai l'impression que, au lieu de... Je pars surtout au niveau de la délinquance. Je serais plutôt confiante. Je ne comprends pas pourquoi la justice terrestre n'est pas plus sévère, tu vois.
Oui. Oui. Les psaumes imprécatoires, justement, sont prononcés dans un cas où aucune justice humaine n'entre en jeu. Tu vois, les choses que David décrit, il a égorgé les femmes, apparemment personne n'est en train d'intervenir comme il faut. Et c'est là justement où nous avons besoin de ces prières. Et nous allons voir dans 2 semaines comment ces prières peuvent soulager ce besoin. C'est un besoin de justice que nous avons, nous. Nous allons voir.
Déjà la justice terrestre qui est...
Oui, mais quand il... c'est ça le problème. Quand il n'y a pas de justice terrestre, que faire? Et souvent, 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 il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, on n'a pas de problème. On n'a même pas besoin de prier dans ce sens. Bon, on a besoin, mais... Oui, mais c'est justement dans ces cas, et parce qu'il y aura toujours ces cas, qu'on a besoin de comprendre cette psaume et ce qu'elle nous enseigne. Parce qu'il y a une manière de réagir avec Dieu par rapport à ces injustices. Et nous devons apprendre à le faire.
Mais souvent, j'hésite à prier parce que je me dis que mon cœur n'est pas meilleur que le leur et que ça aurait pu m'arriver à moi avant de...
Mais prie l'imprécation sur toi-même d'abord, comme les psalmistes. Comme ça, tu dis la même chose pour tout le monde.
Oui, oui, d'accord.
C'est très bien. Donc, mais on verra tout ça. On va rentrer dans les détails concrets.
C'est pas que c'est compliqué, mais c'est très vaste quand même.
Oui.
Et on nous a jamais parlé de ça.
Oui, oui, c'est ça.
Mais c'est pas dans la nature. Si, là, si.
Salut, bébé. Comment vas-tu?
Mais c'est pas qui a eu mon message?
Non.
Je t'avais envoyé un SMS pour te dire que à cause de la pluie je pouvais pas venir.
Ah.
Mais finalement il y a eu un éclairci et puis j'ai vu que j'avais aussi ce message.
Ah.
Et donc je l'ai affilé.
Tu n'as pas de parapluie?
Pour l'instant non.
Ah! Il faut qu'on t'achète un parapluie.
Mais.
Ah. Voilà. La chose est faite. Tu sais ma fille. Elle a 50 minutes de marche pour arriver à l'église. Non, pas elle, mon autre. J'ai une autre fille à Cardiff. Elle marche 50 minutes pour arriver à l'église chaque dimanche.
Ah,
et 50 minutes de retour. Et à Cardiff, il pleut la moitié du temps. La moitié du temps, elle est 50 minutes sous la pluie. Donc il faut bien avoir un parapluie, hein.
Cardiff, c'est chez Alan. Bonjour.
Ouais.
Excuse.
Ouais. Ça, c'est à toi? C'est dans la voix qui est ici.
Bon, je le rendrai à moi.
Ouais. Ouais, c'est à moi.
Et je trouve pas le cantique qui nous a pas. Ah,
c'est là.
Où est-ce que tu l'as trouvé? Alors, cette fois, je vais le mettre dans la sac avant que ça fasse.
Ouais.
Et tout ça, ça reste ici.
Oui, ça reste ici.
Ok, voilà.
Il faut pas perdre les feuilles, hein, parce que dans deux semaines, on va les réutiliser. Oui, peut-être. C'était où ce truc?
C'était avec, tu sais, tout ça, le carton à gauche, voilà.
Et en particulier, pour autre, parce qu'elle a pas son propre ministère.
Ça va?
Oui, ça va bien.
Oui, ouais, ça va. Ouais.
Eux-mêmes n'ont pas de missionnaires.
Et Eden, ça se remet comme il faut?
Oui. Ouais. On doit aller faire une radio de vérification.
Ouais.
Soit cette semaine, soit la semaine prochaine.
D'accord.
Mais maintenant, ça ne dérange pas qu'on la touche, qu'on la porte.
Oui, oui, ok. D'accord, ok. Ça va vite à cet âge.
On sent toujours une petite boule aussi.
Ah bon, d'accord.
Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne sais pas en anglais.
Tu as dit quoi en anglais?
Callous.
Ah oui, 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 c'est ça. Oui, 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 oui.
Bref, là où ça se
bon.
Tente,
je sais pas.
Ça fait toujours une
bonne journée. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais.
Non, normal,
ah bah
ça
si tu connais Calas, vraiment tu as...
Ça
c'est... Oui, oui, avec beaucoup d'enfants. Ah oui, oui, le sport aussi, oui, oui.
On parle des
ouais,
autres, ouais,
c'est vrai,
on
ouais.
prépare.
Oui, 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 c'est bien. Okay. Oui, hop. Ah, tombé.
Oui.
Il y a ok. Je vais aller. Why don't we just take it?
Okay.
Honey, are the keys? Where are the? Do you put the keys in there?
Okay.
Hop.
Have we opened the car?
Yep, I have. Yeah, I'll get it. Yeah.
Okay.
Alors, Flavien. Dis-moi, Alain Davy en Afrique, ça a été?
Oui, il a survécu.
Ouais, il a survécu.
Pas tout était facile.
Oui. D'accord.
Mais je vais d'abord fermer là-bas.
Quoi, physiquement, pour lui? Il a eu des problèmes?
Oui. On a été... comment dire? Normalement, la première semaine, on était dans une zone où il aurait dû faire chaud, mais pas très chaud. Et on devait passer le week-end dans une zone très chaude.
Oui.
Le problème, c'est que toute la semaine, il a fait chaud.
Ah oui.
Et quand on est arrivé dans la zone où il faisait très chaud,
oui.
Très très chaud, et là il a un peu chaud. Donc il a dû passer, se coucher tôt et rester allongé, se reposer pendant un moment.
Ah oui, oui. Bon.
Mais ça va, je pense qu'il a... On va voir comment il va
oui.
digérer tout ça.
Est-ce oui, oui.
En tout cas, il a apprécié le séjour et l'hospitalité qu'il a reçu.
Oui, d'accord, bien. Super.
On lui a donné une expérience. Il a vu pas mal de choses, quoi.
Ouais. C'est bien. Ah, oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Si jamais j'ai l'occasion d'amener d'autres personnes pour un voyage, on en fera peut-être un peu moins.
Ouais.
Je pense qu'en même temps, ça va faire beaucoup pour lui pour.
Les deux semaines, et... oui, au début, oui, c'est vrai, oui. Ouais. Ouais.
Mais sinon, ça s'est bien passé, oui.
Ouais, bien.
La voiture n'est pas tombée en panne.
Viens là.
Mal de choses.
Viens. Oh là là. Aïe. Oh. Regarde-moi ces dents. Oh là là, plein de dents. Ça c'est incroyable.
C'est bien passé ça. C'est un voyage.
Bien, super.
Quand je fais des voyages comme ça, en général, ils sont très remplis.
Vous avez fait des formations intenses? Ou qu'est-ce que vous avez fait?
Mais j'ai donné un cours d'une semaine, oui. Eden, non.
Non. On ne dit pas, ma fille. C'est bien qu'on ne faut pas toucher.